Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Alors, comme promis, voici un petit hors-série qui sent bon l'été et les festivals. Et oui, vous connaissez notre passion pour les arts de la rue. Et comme l'année dernière, nous nous sommes rendus au festival de Chalon dans la rue, festival des arts de la rue, qui a lieu chaque année aux alentours de la troisième semaine de juillet. Alors, rapidement, pour ceux et celles qui découvrent Chalon dans la rue, c'est 5 jours de festival avec plus de 120 compagnies de théâtre, de danse, de cirque, de marionnettes et qui a en gros une trentaine d'années d'existence. Un petit peu, beaucoup, comme le festival international d'Aurillac. Sauf que Chalon dans la rue, c'est peut-être plus un festival pour les pros. Grande nouveauté cette année à Chalon dans la rue, c'est l'invention d'un sous-titre au festival, une sorte de fil rouge. Donc la thématique était très animalière cette année, avec le sous-titre « Hashtag être bête, point d'interrogation ». Du coup, nous avons choisi de coller au sous-titre en vous proposant ce hors-série spécial Chalon dans la rue, « Hashtag être féministe, point ». Comme d'habitude, nous avons traqué dans les programmations les spectacles à dimension, portée et engagement féministe. On continue à ce ou vous dégoter ces petits bijoux artistiques qui nous font réfléchir sur les rapports sociaux de genre, les constructions des sexualités, etc. Histoire de vous aiguiller si vous allez à Aurillac ou sur d'autres festivals. En effet, nous nous interrogeons de plus en plus sur comment les arts de rue peuvent-ils être porteurs de stéréotypes ou au contraire nous aider à les déconstruire. Rappelez-vous l'année dernière à Aurillac, nos discussions et coups de gueule. Les arts de la rue et les festivals ne doivent pas être exemptés de questionnements féministes car ils offrent une certaine richesse de réflexion géographique, rapport à l'espace public, artistique, esthétique, philosophique. D'ailleurs, cette année, le Festival d'Avignon était estampillé « genre et féminisme ». Alors, même s'il y a eu de très beaux spectacles, comme Mon Olympe, ou une super lecture de Béatrice Dalle et Virginie Despentes, nos chouchous, le compte n'y était pas. Son directeur, Olivier Py, n'a pas été épargné. Tout d'abord, il y a eu le très très beau discours de Carole Thibault, qui a rappelé les inégalités dans ce secteur, femme autrice programmée plus sur les spectacles jeune public, figure de la copine sympa ou bouffonne du roi. Mais ce directeur a aussi été excommunication féministe par le collectif Les Tenaces, un collectif de femmes circassiennes. Bref, à Chalon, nous, ça a donné quoi ? Le premier spectacle que j'ai vu sur Chalon était un spectacle proposé par la compagnie S'emballer un Marcel, compagnie qui existe depuis 2014. Ce spectacle, Maurice et Caroline, la mécanique du pantalon, m'a été conseillé par les programmateurs, notamment Camille qui m'avait assuré que ce spectacle interrogeait le genre. Maurice et Caroline, les mécaniques du pantalon, est un cabaret mal engagé pour deux clowns et une corde lisse. Le speech. Maurice est une sorte de monsieur loyal d'un cabaret et malmène sa seule artiste, Caroline, qui peu à peu va se révolter. Les deux comédiens circassiens, Emmanuel Afergan et Émile Goïc, ont une volonté réelle de questionner les modèles établis, les stéréotypes de genre, les normes, dans leur spectacle. Et ils le font de manière très humble, sans volonté de leçons ou de bonnes paroles ou de bonne morale, en laissant place aussi aux contradictions et aux paradoxes. Ils ouvrent des pistes, des possibles, nous interrogent et s'interrogent, comme vous allez l'entendre dans cette interview. Alors, on vient de terminer la représentation Maurice et Caroline, les mécaniques du pantalon. Représentation donnée par la compagnie S'emballer à Marcel. Et on va revenir un petit peu sur ce spectacle qui aborde de nombreuses thématiques qui nous sont chères à Cosette de Boudoir, notamment le féminisme, le rapport de genre et plein d'autres choses. Tout d'abord, merci de nous accorder ce petit temps de discussion. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse de ce spectacle ? Comment est venue cette idée-là ? De quoi vous êtes parti ? L'actualité ? Ou quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps ?
Oui, on est vraiment parti de nous. On est parti de nous, en fait, on est un homme et une femme qui s'identifient clairement comme un homme et une femme. On était en couple jusqu'à il n'y a pas très longtemps et on est parti des désaccords et d'espèce de, j'ai envie de déséquilibre, même si c'est assez utopique de trouver un équilibre, mais qu'il y avait entre nous, c'est-à-dire que moi, avec beaucoup de yang, enfin une énergie qu'on qualifierait de masculine, et lui une énergie très féminine, beaucoup plus douce, et que tous les deux, on n'était pas forcément en accord non plus avec nous-mêmes sur ça, et que on s'est rendu compte que c'est vraiment un rôle qu'on jouait en fait. Et surtout moi, je me suis rendu compte que c'était par défaut que je faisais un peu la dominante et la maline, quoi. Parce que peur de ma vulnérabilité, peur que ma fragilité et que ma vulnérabilité, elle se retourne contre moi et que je sois attaquée en fait. J'étais toujours en protection, mais face à quelqu'un qui n'était pas en attaque. Donc prendre le dessus avant de attaquer, avant de se faire attaquer. Et donc ouais, c'est vraiment parti de moi et de lui en fait, de ce qu'on est et de c'est assez thérapeutique, enfin c'est assez analytique même.
Ouais, j'allais dire, il y a un côté catharsis en fait.
Complètement.
Ok. Et alors ce côté catharsis, on le voit bien parce que vous déconstruisez totalement un petit peu les stéréotypes qui sont liés au féminin, au masculin, au genre. Et de manière assez accessible finalement, c'est assez pédagogique, c'est-à-dire que c'est un spectacle à partir de 15 ans, on peut tout à fait le voir.
Ouais, non, on l'a mis à partir de 12 ans, parce qu'en fait ça parle aux petites filles et aux petits garçons, le problème c'est les parents, qui s'imaginent que leurs enfants pensent. Par rapport à ce que tu as dit en premier, déconstruire. En fait, on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte assez vite que les modèles d'être en couple m'allaient pas du tout, en fait, fonctionnent pas du tout avec ce que je suis. Et c'est aussi comment être une femme, comment être un homme, c'est des questions, j'ai l'impression que moi je me pose, mais je suis pas la seule, parce qu'il y a le désir de sortir de formatages qui vont très très loin, qui nous influencent dans notre intimité. Enfin, c'est comme si vraiment ces formatages qui sont dans les petits mots, dans les petites actions, qui sont dans des codes qu'on entend, dans lesquels on baigne, vont m'envahir jusque dans mon lit, en fait, dans mon intimité, dans ma sexualité. Et voilà, les formatages, essayer de défaire.
Et on le voit bien, ces formatages, parce qu'à un moment, vous jouez vous incarnez des petites filles et des petits garçons qui se posent des questions par rapport à ce que c'est qu'être un homme ou être une femme, avec des questions très enfantines, mais qu'on s'est tous posées par rapport aussi au regard de la société, au regard de l'école, qui essaie, ou des familles aussi, qui essaient de nous faire rentrer dans des cases. Et c'est compliqué d'en sortir.
Et qu'on se pose encore, ouais, en fait. Moi, j'ai envie de me les reposer, ces questions, parce que moi, ça me fait chier quand les mecs, ils sont torse nu l'été et pas moi.
Ouais. Moi aussi.
Et j'ai une pote qui le fait, et en fait elle c'est tellement elle l'assume tellement que ça me choque même plus, quoi. Enfin, que ça me choque pas, et mais c'est hyper dur, j'arrive pas à passer ce cap là puis c'est debout, il y a plein de choses aussi, c'est reprendre en main plein de choses et se poser des questions là où on met une culotte et un soutien-gorge, pourquoi? En fait, comme les enfants, pourquoi, pour en venir à ça, à l'enfance, parce que les enfants, ils posent des questions hyper judicieuses, même si des fois, ils en posent trop et que ça finit par parce que. Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait des culottes? Pourquoi est-ce que les hommes ne mettraient pas des jupes? Pourquoi
Je rebondis sur cette histoire de corps, et moi, j'ai trouvé qu'en fait, c'est surtout le début du spectacle qui m'a mis très, très mal à l'aise. Le tout début, en fait, c'est votre entrée, parce que dans le langage corporel, on voit déjà ce rapport de force entre vos deux personnages. Et je trouve que des fois, les corps, ils disent encore plus de choses que les propos, et ils font passer beaucoup plus de choses. Et donc, vous êtes issus du cirque, de la danse aussi.
Ouais.
Et ça, c'est des moyens d'expression, en fait.
Ouais, ce travail-là, moi, j'ai envie encore de le pousser davantage, parce que moi, toute ma partition du début, je dis rien. C'est juste mon corps et comment je respire qui parle.
Et c'est ce qui est le plus poignant, je trouve.
Et à l'inverse, Maurice, il essaye de faire du carré, du masculin, et en fait, ça marche pas du tout, parce que il a une qualité de corps qui est pas du tout carré, net, efficace, quoi.
Et puis c'est tellement poussé à son extrême que ça en devient ridicule, en fait, ça annule la chose.
Ouais. Bah là-dessus, pour revenir sur le corps, le clown, en fait, c'est de toute façon, c'est l'expression d'un corps. Là, les gens avec qui on bosse, en général, moi, j'ai énormément de textes dans le spectacle. Donc je tiens ce truc de l'homme qui tient la structure, qui tient le rythme, etc.
Qui
occupe l'espace, qui se met en avant. Donc je travaille sur tout là, c'est tous ces archétypes masculins. Et du coup, un gros travail dans le corps. Et en fait, clairement, le clown, c'est ça. C'est le corps.
Et c'est pareil aussi avec ce petit passage. À un moment, il y a une sorte de florilège de blagues sexistes, etc. Mmh. Et en fait, les gens réagissent énormément. Hein, ça siffle, etc.
Il y a plein de gens qui partent.
Il y a des gens qui partent aussi. Je pense que c'est le fait que ce soit, qu'il y en ait autant qui font réagir les gens. Parce que après, dans notre quotidien, quand il n'y a qu'une blague comme ça qui est balancée, souvent, ça ne réagit pas.
Ou alors on n'ose pas réagir.
Ou on n'ose
en
pas.
En fait, au départ, dans l'écriture, c'était moi qui racontais la blague machiste. Et maintenant, c'est devenu un espèce de one-man show où il en colle des tartines, genre à la Bigard. Coucou.
Dédicace.
hyper gras, là. Et dans la vie de tous les jours, moi, en tant que femme, j'ai l'impression d'en entendre tout le temps une ou deux.
Ouais, c'est ça.
Et comment réagir sans être hyper réac ou avec douceur, je sais pas. Juste pour dire aux gens, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, qu'en fait, rire c'est drôle, faire rire c'est chouette, mais faire rire aux dépens des autres, c'est pas drôle. En fait, c'est un humour très très français. Hein.
Ouais.
Je veux dire, tu passes, tu vas dans d'autres pays, il y a un humour peut-être plus de l'autodérision. Chez nos amis les Belges, quand même, c'est... On rit, rire de soi-même, ça fait rire les autres aussi, parce que chacun s'y retrouve. Mais là, vraiment, c'est vrai que ces blagues machistes, elles sont dégueulasses, quoi.
En fait, moi, j'ai passé pas mal de temps sur des sites de blagues machistes. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est l'indigestion, quoi. Ouais. Et à la fin, bon, je commençais à avoir une culture suffisante pour en inventer. Je suis pas très fier de moi. Et du coup, c'est aussi ça, ce one man show. C'est amener à l'indigestion, quoi. Où on sort de ce spectacle et puis les black machos, en fait, c'est bon, on a déjà eu son indigestion, ça passe plus, quoi. Et voilà, d'arriver d'appuyer là-dessus.
Il y a un passage aussi qui a fait beaucoup réagir le public. C'est quand toi, tu deviens violente avec Maurice, quoi. Tu pètes les plombs et là, ça gêne énormément, en fait.
Ouais.
Parce qu'une femme, ça n'a pas le droit d'être violente ou ça n'a pas le droit d'être radicale. Il y a encore ces idées-là, un petit peu, aujourd'hui.
Ouais, il y a ces idées-là. Pour moi, cette scène-là, j'y tiens beaucoup. Et je tiens beaucoup à ce qu'elle soit dérangeante parce que ma violence, elle me dérange, en fait. Parce que j'ai jamais pété la gueule à quelqu'un comme ça, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a une suprématie, on va dire, corporelle, c'est-à-dire de force. J'ai beau faire du cirque et avoir un certain tonus musculaire.
Parce que tu fais de la corde quand même dans ce spectacle.
De la corde lisse. Ouais. Tu prends n'importe quel gars qui ne fait pas d'exercice, il a plus de force physique que moi. S'il veut me maîtriser, il m'arrave en deux, quoi. Et ça a toujours été, ça m'a toujours fait poser des excès de violence ou des injustices. J'ai toujours eu envie de. Moi, on m'a jamais. Je me suis déjà pris une ou deux baffes, mais on m'a jamais tapé. Je me suis jamais mis dans un pugilat parce que j'ai trop peur, en fait, de me faire vraiment pour de bon casser la gueule. Et là, elle lui casse la gueule. Elle utilise une arme d'homme, enfin, typiquement, qu'on voit beaucoup plus. Moi, j'ai beaucoup moins vu des femmes se battre que des hommes. Et en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, elle perd son humanité. Elle perd son humanité, elle pète les plombs, quoi. C'est fini, elle n'est plus dans le contrôle de ce qu'elle fait et ça va trop loin. Et ça dérange. Et moi, ça me dérange. Je pense que si j'étais spectatrice, ça me dérangerait vraiment, cette scène-là. Mais c'est important de se poser la question de la violence parce qu'on l'a tous en nous. Et au plus c'est refoulé, au plus ça pète. Quand ça pète, c'est chelou, quoi. Il y a des gens...
Vous avez un spectacle aussi qui fait énormément écho à ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, mais aussi qui se passe dans l'actualité des arts de rue. Moi, l'année dernière, j'étais à Aurillac, il y a eu quelques petits scandales par rapport à des gobelets jugés sexistes, avec des représentations sexistes et ragraveleuses. Je sais qu'à Avignon, il y a eu pas mal de mouvements aussi par rapport à la non-visibilité des circassiennes, des comédiennes. Vous inscrivez dans ces choses-là aussi?
C'est-à-dire, tu veux dire que...
C'est important pour vous de mettre en avant ces nouvelles luttes?
J'ai l'impression qu'on a commencé ce spectacle il y a 4 ans. Et là, maintenant, effectivement, enfin tu vois, ça part d'un truc personnel qui est pas au départ qui est pas militant quoi. Ouais. C'est pas une... et petit à petit on se rend compte de l'engagement du propos, que c'est un spectacle engagé et que on est dans l'actualité. Du coup chouette, tant mieux. Ce qui se passe après au niveau sociétal, bah, c'est certainement parce qu'il y a plein de gens qui se sont bougés avant que ça devienne un sujet de société, que ça se passe.
Bien
donc
sûr,
bon voilà. Donc
c'est
tant
pas
mieux.
Nouveau, en fait.
Voilà. Du coup, au moins moi, juste j'ai envie de dire, c'est pas un spectacle opportuniste qui se met dans l'actualité et qui fait du politiquement correct. Et on a essayé de tenir, enfin qui serait un début de réflexion là-dessus.
Ouais, là ça. Ça a devenu une nécessité hurlante, en fait, qu'on puisse en parler de ces choses-là. Si c'est pas là l'espace pour dire des choses, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'autres espaces que dans l'espace artistique.
Ok. Super.
Donc on a très envie de jouer, Maurice et Caroline. Achetez-nous.
Ouais, ça marche. Okay. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Très grand merci à Emmanuel et Émile pour cette belle discussion et cette rencontre. On espère les recroiser car ce sont de très belles personnes sensibles à ces thématiques. D'ailleurs, leur dossier de présentation de leur spectacle emploie l'écriture inclusive. Le monde du cirque, mais on va rester dans les questionnements autour de la construction du féminin et du masculin. On va changer d'univers. On va partir du côté du théâtre d'objets et des contes avec la compagnie Agathe dans le vent. Cosette de Boudoir, hors série spéciale Chalon dans la rue. J'avais vu le spectacle Les Curieuses de la compagnie Agathe dans le vent l'année dernière à Aurillac et j'avais beaucoup apprécié. Et donc j'ai été hyper contente de retrouver Delphine Delafosse à Chalon. Ce spectacle Les Curieuses est librement adapté de Barbe Bleue, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cet extrait.
Aiguise, aiguise, coûte-la, par le coup de ma femme. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Maintenant je ne vois que le ciel qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Aiguise, aiguise, coûte-la, par le cou de ma femme, passera. Aiguise, aiguise, coûte-la. Anne, Anne, ne vois-tu rien venir? Oui, je vois! Aiguise, aiguise, coûte-la. Aiguise, aiguise, un nuage de poussière. Oh, un sens, mes frères! Aiguise, aiguise, coûte-la. Aiguise, aiguise, non, non, c'est... Oh, c'est un troupeau de moutons. Aiguise, aiguise, Anne. Aiguise, aiguise, deux cavaliers au loin. Aiguise, aiguise, ils se rapprochent. Aiguise, aiguise, oh. Aiguise, aiguise, mais le pont-levis. Aiguise, aiguise, oh, le pont-levis est levé. Aiguise, aiguise, et les portails de fer. Aiguise, aiguise, le portail de fer est fermé. Aiguise, aiguise, oh, oh, il est donc trop tard. Aiguise, aiguise. Madame, il est temps.
Alors, vous avez sûrement reconnu cette phrase très célèbre du conte « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Sous une forme burlesque noire, ce spectacle « Les Curieuses » se penche sur notre imaginaire collectif et propose une relecture féministe de Barbe Bleue. Nous allons entendre, en suivant, la discussion plutôt sérieuse que j'ai eue avec Delphine car j'avais très envie de comprendre comment elle avait travaillé. En effet, on trouve beaucoup de finesse et plusieurs lectures dans ce spectacle. Il offre aussi de beaux supports de réflexion sur la construction du féminin, l'éducation des filles et la découverte de la sexualité. Alors, je suis en compagnie de Delphine, qui est comédienne au sein de la compagnie Agathe dans le vent.
et qui vient de présenter sur Chalon dans la rue son spectacle Les Curieuses, qu'on avait aussi vu l'année dernière à Aurillac. Bonjour Delphine, et merci beaucoup de répondre à ces petites questions.
Bonjour.
Tu as choisi pour ce spectacle, alors c'est du théâtre d'objets.
Mmh. C'est ça.
Ça approche un petit peu de la marionnette, mais c'est quand même différent.
C'est cousin de la marionnette, ça fait partie du même univers artistique, on va dire. Mais c'est malgré tout très très différent, parce qu'il s'agit d'objets du quotidien qui sont utilisés, et à la différence de la marionnette qui, elle, utilise des pantins ou ses dérivés, parce que malgré tout, le monde de la marionnette, c'est extrêmement vaste et varié. Enfin voilà, là, l'idée, c'est qu'il n'y a aucune construction, mais uniquement des objets manufacturés.
Et tu présentes un spectacle sur Barbe Bleue. Alors pourquoi t'être intéressée à cet univers des contes ?
En fait, je dirais que je ne me suis pas intéressée à l'univers des contes, c'est le conte qui est venu à moi. C'est complètement différent comme démarche. Oui, c'est lui qui est venu me chercher, en fait. Tout a commencé par la lecture d'un livre qui s'appelle « Femme qui court avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes, d'ailleurs dans lequel j'ai trouvé une interprétation plutôt de ce conte de Barbe Bleue, fort intéressante. Donc à cette époque-là de ma vie, durant laquelle je lisais ce livre, j'ai suivi un stage de théâtre d'objets avec une artiste immensissime qui s'appelle Cathy Deville, théâtre de cuisine à Marseille pour ne pas y citer. Et voilà, au cours de cette expérimentation du théâtre d'objets, elle nous a proposé d'improviser sur ce conte. Voilà, et en choisissant particulièrement, si on la connaissait, cette interprétation-là de Clarissa Pinkola Estes, et bingo, j'étais justement en train de la lire. Voilà, et les dés ont été jetés à ce moment-là, de manière absolument spontanée. Les prémices du spectacle Les Curieuses sont nées là, dans cette proposition d'interprétation. Donc c'est une proposition qui venait de l'extérieur et auquel j'ai répondu, et voilà, ça a été une révélation. Voilà, c'est parti de là.
Tu cites ce très beau ouvrage, hein, Femme qui court avec les loups, mais je pense que tu t'es nourrie d'autres ouvrages sur les contes, parce que on voit plein de références. Moi, je pense à la psychanalyse des contes de fées.
Bettelheim.
Voilà.
Oui, un petit peu.
Un
bref.
Petit peu.
Mais surtout, Fabienne Raffoz, qui a écrit un essai exclusivement consacré aux épouses, voilà, et donc et qui relate toutes les versions possibles et imaginables de ce conte dans le monde entier.
C'est un conte qui est très ancien, finalement.
Tout à fait, c'est un conte de tradition orale, hein, comme la majorité des contes. Perrault, en fait, il a rien inventé du tout. Il n'a fait que récupérer, réécrire à sa sauce. Voilà, bon, après, c'est ce que je fais aussi, hein, en m'inspirant d'un peu de Fabienne Raffoz, un peu de Bettelheim, un peu de Clarissa Pinkola Estes.
Je pensais aussi à Du côté des petites filles, où elles analysent les contes aussi d'un point de vue un petit peu féminin. Mais on sent que, voilà, t'es allé te nourrir de plein de symboliques et d'analyses. Et dans ton spectacle, on retrouve ces symboliques, notamment dans le choix des objets que tu mets en scène et qui participent au spectacle. Alors, il y a la pomme.
Bien sûr. Alors, la pomme, évidemment, Adam et Ève, l'objet de l'amour, du sexe, voilà.
La connaissance aussi, ça peut
La s'y... connaissance, tout à fait. Il y a aussi... dans l'univers des contes, la pomme de Blanche-Neige, à savoir la pomme qui va empoisonner et qui va créer tout le processus, hein, qui va être le déclencheur de tout le processus. Voilà, il y a la pomme, évidemment. Après, il y a le gant bleu, évidemment, pour symboliser la couleur de l'amoureux. Et en même temps, là, du coup, je dévoile tout, hein, en disant ça. Je dévoile tout toute la dramaturgie du spectacle. L'amoureux en question, donc Barbe Bleue, effectivement, il est réduit à un gant qui est sur la main de l'héroïne, de l'épouse, et qui va tour à tour la caresser, mais aussi lui donner des ordres, la censurer, la violenter, etc., etc. Alors évidemment, c'est du théâtre d'objets, parce que c'est une métonymie, on a un objet qui va symboliser l'ensemble du personnage. C'est pas une marionnette, ce n'est qu'une main, un ordre, une action, une fonction. Et en même temps, ça personnifie, ça illustre plutôt une idée qui est développée par Carissa Pinkola Estes, qui m'intéressait beaucoup, et d'où vient l'idée justement d'utiliser ce gant, à savoir que, évidemment, le prédateur, l'homme ou la femme hein, d'ailleurs, hein, c'est, à ce niveau-là, c'est pas genré, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être des prédateurs vis-à-vis des autres. Donc, le prédateur, évidemment, il existe à l'extérieur de notre vie, à l'extérieur de nous-mêmes. C'est une personne qu'on va rencontrer et qui va nous maltraiter ou essayer de nous soumettre. Et en même temps, pour elle, c'est aussi une entité symbolique qui est dans notre psyché, dans notre inconscient. Et quelque part, c'est nous qui portons, en quelque sorte, les conditions pour être une proie dans notre vie de ce genre d'individu. Donc c'est à la fois à l'extérieur évidemment, mais c'est aussi à l'intérieur. C'est parce que nous sommes fragiles et violentés et que nous portons en nous-mêmes les stigmates voilà, de cette prédation que nous devenons une proie à l'extérieur et que nous pouvons rencontrer ce genre de personnes.
Comme un conte, ton spectacle propose plusieurs lectures. Hein. C'est-à-dire que selon son histoire, comme tu dis, on peut y voir des choses différentes. Il touche de façon aussi différente, on va dire, à un public un peu plus jeune qu'un public adulte. Hein. C'est vrai que le petit cabinet, certains peuvent y voir une initiation à la sexualité, d'autres une initiation à la connaissance, au savoir. Et alors, comment tu l'as travaillé ? Ou c'est venu comme ça, en fait, ces plusieurs lectures ?
C'est pas venu comme ça, c'est venu effectivement à la suite de la lecture de tous ces auteurs hein, dont on parlait en introduction et de toutes ces diverses interprétations. Et pour chacun, pour chaque personne qui a analysé ce conte, ce qui se passe dans le petit cabinet interdit prend une toute autre signification. Donc pour certains, évidemment, c'est uniquement le lieu de manière primitive des cadavres des épouses précédentes qui nagent là-dedans. Donc heureusement, quand bien même ça se limiterait à cette interprétation-là, heureusement parce que cette femme, du coup, en faisant preuve d'audace et en y allant malgré l'interdit, se rend compte qu'elle a épousé un serial killer, donc voilà, sauf qui peut. Partons vite. Et puis pour d'autres psychanalystes, par exemple, se cachera là tout ce qui est autour effectivement de la sexualité et du mystère de la sexualité féminine, de la possession de son corps, de sa connaissance, son plaisir, jusqu'à la maternité. Voilà tout ce qui touche à la sexualité de la femme. Selon ce mari, surtout pas qu'elle ait accès, parce que sinon ce ne serait plus une proie ou peut-être un objet sexuel aussi pour lui. Puis la troisième possibilité que j'ai trouvée, c'est qu'il s'agit là en fait de son inconscient. Et gise là autant bien ses renoncements, ses blessures, que sa capacité à renaître, à être forte, à être en pleine puissance d'elle-même et en pleine connaissance d'elle-même aussi et de ses capacités, et qui lui permettront de ne plus jamais être une proie de quiconque.
Dans ta version de Barbe Bleue, tu as gardé quand même ce passage très célèbre, hein, cette réplique, on va dire, très célèbre. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et c'est peut-être le petit clin d'œil vraiment à ce qu'on connaît, nous, dans l'imaginaire collectif. Mais tu fais de ton héroïne autre chose que ce qui est connu dans le conte, c'est-à-dire qu'elle s'en sort par elle-même, finalement.
Oui, elle s'en sort par elle-même. Dans le conte de Perrault, dans la version de Perrault, ce sont ses frères qui viennent la libérer. Alors là, on les voit, on les entend venir, on les voit venir, on les nomme, mais ils ne parviennent pas à rentrer dans le château parce que tout est barricadé, évidemment. Et du coup, ils sont obligés de partir et c'est elle qui s'en sort toute seule, grâce à son audace et sa témérité, et voilà. Et j'ai appris, en lisant justement tous ces psychanalystes, j'ai appris que les contes n'étaient en fait des symboliques, des images symboliques. Et que ça racontait essentiellement des histoires de l'inconscient. Et à ce titre, ces deux personnages masculins, ces frères qui viennent la libérer, pour certains, il ne s'agit rien d'autre que des de l'énergie masculine qui se trouve dans son cerveau. On a tous, êtres humains, quel que soit notre sexe, une partie masculine, une partie féminine. Et voilà, et donc la partie masculine, évidemment, c'est le symbole de la témérité, de l'esprit guerrier, entreprenant, du courage, etc. Ça représente ça. C'est cette entité qui est dans son cerveau, à elle, de toute façon. Je me suis dit, super, alors, pas besoin, très bien, pas besoin
Des frères.
Et voilà, des frères, c'est... Toute sa capacité, elle est en elle et elle peut très bien s'en sortir toute seule, voilà, sans qu'ils aient besoin de venir la sauver.
Et je trouve que de ce fait, le message est encore plus fort par rapport à ce personnage.
Je suis d'accord.
Et pour finir, j'aimerais te poser une dernière petite question. Ce spectacle, tu l'as appelé Les Curieuses. Pourquoi ce titre ? Parce que là aussi, il y a une symbolique qui est forte. C'est un joli message que tu fais passer.
Bien mieux, parce qu'on a toujours tendance à dire que la curiosité est un vilain défaut, même vilain, carrément, on utilise ce mot-là. Et là, ben, pour une fois, c'est une magnifique qualité, puisque ça lui permet de rester en vie et de même d'éclore à elle-même, voilà, de renaître plein de fois. Donc, soyons curieuses, mesdames et messieurs aussi d'ailleurs, soyons curieux tous. Hein. Et puis après, c'était un petit clin d'œil vis-à-vis de l'ouvrage de Fabienne Raffos, justement, dont j'ai parlé au départ. Hein. Parce que c'était Les femmes de Barbe Bleue, une histoire de curieuses, hein, c'est ça le nom de son traité. Je me suis dit, mais et ce livre, il m'a tellement nourrie, et c'est tellement juste, parce qu'en fait, dans ce conte, tout tourne autour de ça, autour de justement de la curiosité et de l'audace. Voilà. Donc je me suis dit que c'était un bel hommage.
Je te remercie.
Je t'en prie.
Et puis j'espère te revoir sur d'autres festivals avec d'autres spectacles encore.
Un très grand merci à Delphine de s'être prêtée à cet exercice, d'avoir levé le rideau sur son monde. C'est une personne hyper forte avec une sensibilité presque exacerbée, une certaine délicatesse de l'âme, et c'est ce que j'apprécie d'autant plus. Elle a un autre spectacle qui s'intitule « Le sel de la vie » qui pose la question de notre rapport en tant que femme à la sexualité. Me tarde aussi de voir ce nouveau spectacle et d'en discuter avec elle. Je rappelle rapidement les ouvrages qui ont été cités dans cette interview. « Femmes qui courent avec les loups », »,« Une histoire de curieuse », »,« Du côté des petites filles », si vous souhaitez pousser l'analyse. Sinon, vous avez une version aussi érotique des contes intitulée « Contes à faire rougir le petit chaperon rouge ». D'ailleurs, un autre spectacle du Yin a proposé, pendant ce festival, une lecture féministe d'un conte. C'était la compagnie Erdo, avec le spectacle « J'ai peur quand la nuit sombre ». Relecture du petit chaperon rouge. Sexuel, violent, ce spectacle s'appuie sur la version nivernaise du conte, celle du Moyen-Âge où la fille s'en sort seule. On y trouve une scénographie de dingue, notamment avec un fil rouge qui est sans cesse tissé, brodé un petit peu partout, et de jolis clins d'œil féministes. Par exemple, la mère remet un couteau à sa fille, en référence à King Kong Theory, comme le souligne la metteuse en scène Edith Amselem. Ce spectacle parle du consentement, du désir, de la sororité. Il y a un très très beau passage aussi, notamment sur les règles avec toutes les expressions qui désignent celles-ci.
Changez pas, je débite pas, je pas les pas, ça fait trop, j'ai les épaules et le sang froid. J'enchaîne les crashs, les poches trouées, je cours après le cash, mais j'aime ça. Je collectionne les canailles et les crâneurs, mais pas peur, je les aime bien, mon cœur à l'âme d'un boxeur. Un coup de bluff, je regarde moi, on baisse les yeux, je fais le poids, les filles ne pleurent pas. Ah, ah. Un soufflet, un coup de froid, rhume, une maladie.
C'était Les Brigitte, Les filles ne pleurent pas. Un titre approprié, je trouve, à ces relectures féministes de nos contes traditionnels. On poursuit nos rencontres et on reste du côté des voix féminines avec cette compagnie, le Quartet Buccal et son spectacle Cinéma Capella. Cette compagnie a été créée en 2012 et se revendique comme un groupe de femmes qui chantent a cappella des chansons tendres, drôles. Pourtant, ce n'est ni un girl band, ni une chorale 70s, ni les frères Jacques qui se seraient fait des couettes. À 3, 4 ou 11, les artistes de la compagnie conjuguent voix, corps, énergie, humour et féminisme. Pour ce spectacle, c'était le principe du ciné-concert, mais bien plus décalé et amusant. Je suis allée à la séance « Osons le plaisir ». Avec un tel titre, Cosette de Boudoir était au rendez-vous.
C'est pas grave, chérie, fais pas la tête.
Ah oui, tu n'as pas joué une seule fois depuis des mois.
Oh.
Je voudrais te contenter, je me sens nulle.
Oh, c'est pas grave, tu sais, il n'y a pas que le sexe dans la vie. On peut aussi faire du shopping, aller à la forêt.
Aller à la forêt, tu parles, je sais que tu rêves de
mieux. C'est pas grave, tiens. Je ramène le lait.
Tring,
oh.
Tring, tring,
ça sonne.
Tring, tring,
tring. Allô? Bonjour Annabelle.
Oh ma chérie, j'ai passé une nuit extraordinaire avec Rick et John et Bobby et j'ai joui, mais j'ai joui, joui, joui.
Tant mieux pour toi, moi aussi ça va super. Jeff est très, très, vraiment très gentil, ma foi c'est déjà ça. Bye.
C'était qui?
C'était Annabelle, elle a vu Rick, John et Bobby, tout le monde t'embrasse.
Bon, appelle ma mère, ça ne peut plus durer. Je suis sûre qu'elle pourra nous aider. Maman a toujours, toujours une solution.
Comme vous avez pu l'entendre, dans cette séance, nous avons eu ce magnifique film doublé, suivi d'une conférence sur le plaisir féminin. Sous le ton de l'humour, les propos sont engagés, comme vous allez pouvoir le découvrir dans cette interview de Claire Chiabé, Véronique Ravier et Marisa Simona. Nous sommes en compagnie du Quartet Buccal hein, qui présente le cinéma a cappella et moi je viens d'aller voir la séance Osons le plaisir qui est proposée à un public averti. Alors merci de répondre à mes petites questions. Et la première, j'aimerais savoir comment est venue cette idée de cinéma a cappella.
Alors, nous, en fait, on chante depuis très longtemps ensemble. Et voilà, et on aime bien les images. Et du coup, c'était l'occasion pour nous de faire comme un petit ciné-concert où on puisse raconter nos histoires, qui on a un univers assez féminin, puisqu'on chante toujours entre femmes, voilà. Et mais en s'appuyant sur l'image. Et donc, l'idée, c'était de prendre des petits films d'archives ou autres et de les recouper pour raconter les histoires que nous, on avait envie de raconter. Et là, en l'occurrence, celui que tu as vu, donc c'est un spectacle sur la sexualité. Et donc voilà, on a trouvé un film des années 50 qui parle pas du tout de sexualité, évidemment, puisque c'est les années 50 aux États-Unis, qui parle en fait de la consommation. Et en fait, c'est une femme c'est un couple qui est hyper triste parce qu'ils n'ont pas la machine à laver, etc. Et donc Dieu envoie un ange pour lui envoyer toute la société de consommation. Et nous, on a détourné, puisqu'en fait, la femme, elle est malheureuse parce que voilà, elle n'a pas d'orgasme. Et donc, c'est un petit ange qui souffle des idées à l'homme.
Alors oui, voilà, je voulais revenir sur ce petit film parce qu'on est vraiment au tout début hein, de la séance dans l'univers des années 50-60 où c'est une époque où les femmes n'ont pas énormément de liberté. Hein. On est au début de la seconde vague féministe, ça arrive tout doucement. On est vraiment aussi dans cette idée de la ménagère qui doit consommer. Et derrière, vous y mettez des propos qui sont, pour moi, hein, résolument féministes hein, sur la sexualité. Vous en faites une femme, finalement, actrice de sa sexualité. Alors, ce côté décalé, du coup, renforce peut-être vos propos ou vos messages?
Bah oui, c'est tout l'intérêt pour nous de pouvoir détourner des images qui existent. Donc, on travaille avec Mathilde Grosjean, qui est monteuse, Et le fait de pouvoir remonter des images, tout le monde voit que c'était pas que les dialogues qu'on dit, c'était pas ça à l'origine. Donc ça nous permet de mettre notre couche d'humour et puis de dire ce qu'on a envie de dire, justement d'une manière un peu décalée, quoi.
Alors même au tout tout début, il y a une super image hein, de Betty Page. C'était un peu la contre Marilyn, hein, parce qu'elle était un peu plus sombre. Et elle danse admirablement bien avec un déhanché de fou. Et dessus, en fait, vous refaites cette musique des années 50-60. Comment vous travaillez pour avoir une synchronisation aussi parfaite ?
On répète.
Énormément.
Oui, on répète énormément. Oui, ça par contre, on travaille pas quasi tous les jours, on se voit vraiment très très souvent. Ça fait presque 20 ans, plus de 20 ans que ça dure. Et voilà, notre pratique, oui, c'est de répéter, de rire, faire les arrangements. Après, on se les met en bouche et après, on se recale sur les images. Donc, retrouver les tempos, etc. pour être calé pile poil sur les images. C'est ça qui est plus complexe à trouver dans ce travail.
Oui, parce que même dans le film, en fait, lorsque les personnages bougent leurs lèvres, on a vraiment l'impression que c'est vos propos, en fait, qui sont dits. Donc, il y a aussi un travail de doublage.
Synchronisation.
Ouais,
et presque. Ça qui était agréable pour nous et qui changeait de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que ça fait quand même 24 ans qu'on chante ensemble. Et là, voilà, c'est la première fois qu'on fait ça, et effectivement tout ce travail de post-synchro, etc., qui était en plus rigolo, puisque du coup il a fallu écrire les dialogues, puisque du coup on a réécrit toutes les histoires, donc trouver des dialogues qui collent avec les bouches, etc. Donc c'est vrai que du coup c'est un spectacle mine de rien qui prend du temps, enfin surtout que là il y en a quatre différents quand même. Et donc mais après oui, pour la musique, c'est ce que dit Véro, c'est qu'on écrit les arrangements avant évidemment, et on les travaille avant, et voilà, et c'est voilà une écriture collective qu'on a l'habitude, on travaille collectivement depuis longtemps, mais voilà, c'est un plaisir, quoi. Voilà.
Vous proposez aussi une sorte de petite conférence sur la sexualité féminine, hein, avec des faux témoignages. Vous vous êtes inspiré de choses que vous avez lues dans les magazines ou des choses qui ont tourné pour écrire cette petite conférence ?
Alors là, on a de la chance, c'est qu'on a une spécialiste, donc notre metteuse en scène. Il y a une metteuse en scène qui a chapeauté ces quatre entresorts du cinéma Capella, qui s'appelle Cécile Martin, et qui fait partie du cabinet de curiosité, et qui d'ailleurs, pour le coup, a un autre spectacle de poésie érotique qui va jouer d'ailleurs au RIAC aussi. Et donc, elle, c'est une spécialiste. Donc voilà, on savait à peu près quoi dire, mais elle veillait au grain pour que chaque chose soit pesée. On a pesé, mine de rien, chaque chose. C'était très important. Il y a encore des choses qui...
Nous ne sommes pas toutes d'accord. Voilà. Il y a eu des désaccords. On a découvert des choses. Oui, parce qu'on a recherché aussi. On a beaucoup cherché. On a cherché sur les enquêtes, la journée mondiale de l'orgasme. Enfin, des choses comme ça.
Ça, je ne savais pas du tout. Hein.
Oui, et ben, voilà, c'est par les recherches qu'on a découvert tout ça. Donc, même nous, on s'est enrichi à travers ça. C'est pas du tout... voilà. Donc,
Alors, vous, là, c'est une séance qui s'appelle « Osons le plaisir », mais vous avez d'autres séances. Une autre traite du thème de la femme idéale, c'est ça ?
Oui.
Et pareil, un autre spectacle qui est peut-être plus pour les enfants, mais petits et grands, sur même l'effet...
Même l'effet pète.
Voilà, ouais. Et il paraît qu'il y a aussi des propos féministes là-dedans.
Oui, complètement. C'est un petit message qui est passé comme ça, sur le fait de l'image du corps, de savoir de pouvoir dire non, de toutes ces choses-là, voilà, qu'on essaye de passer aussi aux plus jeunes.
Oui, ce module, il est aussi autour d'un vieux Betty Boop des années de 32, je crois. Et déjà, lui-même, on ne l'a pas changé du tout. C'est l'histoire de Buzzy Boop, la nièce de Betty Boop. Et rien que le film en lui-même, les images, racontent déjà une histoire féministe. C'est une super petite fille qui a trop la pêche, qui a envie de tout et qui lutte pour jouer avec les garçons qui ne veulent pas d'elle. Et puis finalement, voilà, c'est elle qui les sauve à la fin. Enfin, c'est très rigolo et c'est assez chouette. Ouais.
Oui, alors vous mélangez, on va dire, plusieurs formes artistiques, hein, le chant, le cinéma, le montage, il y a du théâtre aussi, puisque vous incarnez des personnages. Donc pour vous, tout ce qui est, le milieu artistique, et c'est un bon moyen notamment pour toucher les plus jeunes et faire avancer aussi sur certaines choses.
Alors c'est pas notre but premier, c'est faire des spectacles. Et après, il se trouve quand on voit ce dont on a envie de parler, voilà, on parle beaucoup, on se met d'accord. Depuis le temps qu'on existe, on a exploré plusieurs sujets voilà, plusieurs manières de faire des spectacles. Après, c'est vrai qu'on tourne toujours autour du thème des femmes, et souvent assez de l'intime, et toujours dans l'humour. Donc on arrive vite à retomber sur les un peu de thèmes de prédilection.
Ok. Est-ce que vous avez des prochains projets ou des futures envies de thématiques, d'idées, de choses comme ça?
Bah là, pour le moment, c'est vraiment très très neuf pour nous. Donc en fait, là dans ce cinéma Capella qu'on fait sous une yourte, il y a 4 modules. Et le tout dernier, qui s'appelle Idéal Roux, où c'est pareil, on livre des femmes idéales à domicile, donc c'est aussi autour de la femme. Et puis du coup, aussi, bah voilà, on a un peu copié sur Deliveroo, hein, on ne va pas se cacher. Et celui-là, il est tout nouveau, on vient juste à peine de le finir, c'est les premières qu'on a faites à Chalon. Donc c'est vraiment à peine terminé, c'est tout frais. Je pense qu'il y a peut-être des bricoles qu'on va changer encore, donc on n'est pas encore dans l'idée de ce qu'il y aura après, quoi. Déjà, on
va profiter. Voilà. Et le quatrième dont on n'a pas parlé, il s'appelle Les Femmes de l'espace. Donc voilà, c'est un film. Du coup, on a raccordé 2 films pour raconter une histoire de femmes qui vont sauver le monde, qui va pas du tout parce qu'il y a un tyran atroce qui veut enlever le code du travail. Voilà, et donc là, du coup, c'est l'occasion, parce que comme évidemment, il y a des images incroyables des années 70, ouais, avec des mecs en combi, etc. Voilà, donc on rigole, et puis on bouscule pas mal de choses. Il y a pas mal de trucs sur l'homosexualité, de petites allusions comme ça, et on s'amuse bien aussi.
Oui, puis avec ces petits montages aussi, vous faites un bel hommage à ce qu'on appelle la culture populaire, qui est souvent dénigrée, hein. Ces films de série B, ou ces pin-up, ou ces contes de fées, donc c'est... C'est chouette aussi ce travail de mémoire, finalement. Je vous remercie.
Merci à toi.
Merci.
Et ouais. Alors, juste pour dire, donc on sera à Aurillac, place Doumergue, c'est ça ?
Doumergue.
Donc avec le cinéma Capella, et notre metteuse en scène, Cécile Martin, avec, donc c'est la compagnie Drôle de Rêve, avec Oreilles Chastes S'abstenir.
Qu'on ira voir, évidemment, nous.
Évidemment.
Évidemment. Parce qu'on n'a pas des oreilles chastes.
Merci.
Merci beaucoup à Claire, Véronique et Marisa, que nous retrouverons à Aurillac, peut-être pour une autre séance, et aussi pour aller voir le spectacle conseillé Oreilles Chastes S'abstenir.
Idéal Roux, la femme idéale, livrée chez vous. Idéal Roux, 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 roux.
Hashtag être féministe, Cosette de Boudoir, un hors-série spécial Chalon dans la rue. On va rester dans le domaine sonore et aller vers plus de sensualité et d'érotisme avec ce dernier spectacle. Ce spectacle, Caresse sonore, était proposé par la compagnie 3 pièces cuisine. Caresse sonore, déjà le titre nous attirait. Lecture acousmatique pour grandes oreilles. Des lectures sur l'amour, de la musique, tout ça dans une caravane. Donc, on a réservé notre place pour un soir, un peu tard, et la magie. Une très belle expérience sonore, mais surtout une rencontre magnifique avec 2 êtres lumineux, Bérangère Mel et Dan Digital, que je vous propose d'écouter. Alors nous sommes avec Bérangère et Dan de la compagnie 3 pièces cuisine. Je suis venue voir leur projet, leur concept, qui est une caresse sonore ou des lectures acousmatiques pour grandes oreilles. Merci beaucoup déjà de nous recevoir dans votre petite caravane.
Ben merci de venir, ça nous fait plaisir.
Alors tout d'abord, j'aimerais savoir, parce que c'est quelque chose de très particulier que vous proposez pendant Chalon et puis j'imagine dans d'autres festivals, comment est venue cette idée de mêler à la fois des lectures et une musique finalement qui est composée en live ?
Ben, en fait, c'est le projet, il est né d'une rencontre entre Dan et moi. Dan, il fait de la musique électroacoustique, moi je suis comédienne et on s'est rencontrés sur un... C'est anecdotique, mais après vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. On s'est rencontrés sur un projet qui... C'était un spectacle qui jouait sur une péniche. Et moi, je jouais et Dan faisait le son. Et c'était déjà un objet qui se baladait Du coup, est née l'idée de la caravane et de l'itinérance. Où c'était enfin, tous les deux, on a flashé sur cette idée de... Et c'est le bateau aussi, c'est comme une caravane, c'est un petit espace, c'est une boule et, ouais. et ça bouge. Et voilà, on s'est rencontrés, il se trouve qu'au fil des écluses, on est tombés amoureux et qu'on a eu envie d'avoir un projet artistique commun et qui mêle nos deux disciplines. Et on avait aussi tous les deux très fort cette envie d'itinérance, d'emmener les gens, enfin de faire du théâtre où il n'y en a pas et d'emmener les gens dans un univers. Et aussi, ce qui est intéressant sur ce projet-là avec la caravane, c'est que c'est aussi notre lieu de vie. Donc quelque part, là sur le festival, on habite dans notre caravane. Du coup, on invite les gens dans notre maison.
Dans l'intime, on reste dans l'intime ouais. en fait, du début à la fin. Quoi.
Et dans l'intime, après on raconte pas à tout le monde qu'on est un couple, mais je pense que ça se sent. Voilà, donc du coup c'est vraiment une invitation dans notre univers à nous. C'est comme ça qu'est né ce projet, vraiment.
Alors après, comment vous avez travaillé au niveau des choix des textes? Est-ce que d'abord, toi, tu as choisi les textes et ensuite, Dan a créé la musique, ou ça s'est fait en même temps, ou c'est l'inverse?
On entend Dan qui fait ses tests son, joue tout à l'heure.
Et c'est super agréable, en plus.
Comment ça s'est passé? On était, comme c'était le moment de notre rencontre, on est parti sur l'amour. Voilà, c'est un peu gnangnang, mais c'est comme ça. Et
oui, puis c'est un thème universel aussi.
Oui, c'est un thème universel. Et puis, on avait envie de... Comme nous, on était bien.
Là, ça fait beaucoup moins amour. Hein.
Comme on était bien. Non, comme on était bien, on avait envie que tout le monde soit bien. Enfin, c'était les débuts là, d'histoire. Et moi, j'avais sélectionné des textes. Dan avait ses musiques. Et il me semble qu'on s'est assez vite fixé sur ces textes-là. Ah non, il y en avait d'autres au début. Au début, c'était beaucoup plus long.
On avait des enregistrements d'interviews de gens sur le sentiment amoureux. Donc on commençait avec ça, ouais. On commençait avec ça. Ce que tu as entendu, en fait, qui a servi pour ce que tu as entendu, les caresses sonores, montage radiophonique.
D'accord.
Donc on mettait ça au début, c'était un peu en deux temps, il y avait ces voix, et après on avait les lectures avec...
Ouais, comme un petit peu un préambule en fait, ouais. histoire de commencer à habituer l'oreille, et puis ensuite...
C'était l'introduction, et puis on a enlevé. Là, Dan, ça lui permet de... Moi, mes textes, c'est toujours les mêmes. Après, c'est du direct, hein, donc c'est du direct. Je les joue quand même, c'est pas enregistré.
Oui, contrairement à Cosette de Boudoir, où nous, on enregistre tous les textes, Bérangère, elle lit en live et elle lit très, très, très bien.
Merci. Et Dan, lui, ça lui permet de s'amuser avec ses sons, et ça change à chaque fois, et c'est chouette.
Et du coup, c'était mon autre question. Chaque soir, chaque séance, c'est un live qui est différent que tu proposes?
Non, enfin c'est joué quoi, comme si tu veux. Après c'est pas ultra, tu viens pas deux soirs de suite complètement des choses complètement différentes, mais ça joue live, ouais. Après oui, sachant moi je change des choses.
Ah c'est chouette, donc vous faites évoluer au fur et à mesure.
Ouais, c'est ça,
Ouais, le projet il évolue. En fait on l'a créé en 2015. Et il évolue beaucoup.
Bah comme une histoire d'amour.
C'est ça, ça change. C'est bien parce qu'on ne s'ennuie pas, ça déjà c'est réussi. Et je pense que là, on arrive à trouver un peu... Il y avait un côté peut-être au début qui était assez scolaire. Dans les premiers temps, on avait ses voix. Moi, quand je lisais, Dan était plutôt en arrière. Et là, ça y est, on commence à avoir une matière, en fait.
Oui, parce que c'est extrêmement bien équilibré, en fait. On a des moments où il n'y a vraiment que de la musique, des moments où on se fixe vraiment sur ta voix. Et puis des fois, ça se mélange et on ne sait plus trop si c'est de la musique ou une voix, en fait. Il y a quand même toute une mise en scène, en fait. Vous plongez vraiment votre public, le spectateur qui vient voir ce spectacle, dans quelque chose de très particulier pour qu'il soit... en totale écoute, et pour vous c'est très important ça.
Ouais, c'est un truc qu'on a, c'était un peu au hasard, je sais plus comment on a réussi, parce que on a fait une soirée qui était plutôt cul,
qui était censée être hommage à Tonton Cul.
Hommage à Tonton Cul, avec la laverie, et donc on avait amené la caravane, et eux ça se passait dans une ancienne gare, là. Et on avait ramené ce banc qu'on avait chez nous, Et on s'est dit, bah, on va asseoir les gens sur le... Je ne sais plus comment on a eu l'idée de leur mettre les masques.
Ça
s'est fait un peu. Et on a vu que ça marchait à fond.
Ouais,
et qu'en fait, les gens qui voyaient les gens... Et comme ça marche là, quoi, tu vois, les gens qui voient les gens avec les masques, ça donne... C'est comme les gamins, tu vois, ils voient un jeu et ça donne hyper envie d'essayer. Et surtout de qu'est-ce qui se passe dans cette caravane, quoi, avec ce masque.
Et moi, je trouve que c'est une expérience super intéressante. Et là, je parle d'un point de vue professionnel, c'est que ça développe une écoute et une concentration sur le son. Ce serait presque un exercice à faire de temps en temps, en fait, pour se nettoyer les oreilles, presque.
Moi, je fais beaucoup, hein. J'écoute beaucoup comme ça, les yeux fermés. En concert, j'écoute les yeux fermés. Dans la rue, je ferme les yeux pour écouter. Mais c'est clair que ça serait des choses à développer. Et après, il y avait aussi un peu une idée d'initiation, des rites comme ça, tu sais, les francs-maçons, qui met des masques, des trucs, voilà.
Oui, donc, puis vous nous amenez chez vous.
Voilà, mais je pense que s'ils font ça, c'est pas... Voilà, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que t'es concentré, quoi. Ça te permet de te concentrer sur... ça ramène vers l'intérieur.
Et puis que les gens, si, en fait, aussi, au fil du temps, là, comme je disais, la création a évolué. Les gens, au début, ils rentraient, on ne leur bandait pas les yeux. Et en fait, comme on est vraiment dans une société où c'est l'image, les gens, quand ils rentraient, en fait, ils regardaient partout et ils attendaient qu'il se passe quelque chose de visuel. Et donc, ils me regardaient avec une attention de comme ça. Et en fait, je leur disais, en fait, il n'y a rien à voir. Et là, les gens, ils étaient perdus, quoi. Donc ils regardaient la tapisserie, ils avaient besoin de se raccrocher à un truc visuel. Et du coup, là, le fait de leur bander les yeux, on les empêche de voir, ça marche bien. Ils ont les oreilles grandes ouvertes. Après, on s'aperçoit aussi que c'est le rapport au corps, il change. Pour les gens, c'est hyper déstabilisant. Mais ils jouent beaucoup le jeu. Mais quand même, on les attrape par la main, on les touche beaucoup parce qu'il faut... L'espace est petit chez nous, donc il faut qu'ils s'assoient. Il y a une dame, là, cet après-midi, on a joué, je lui ai mis le bandeau, elle était complètement paniquée, en disant « Non, mais je ne vais pas y arriver. » Donc c'est marrant. Chez les gens, il y a un truc qui se passe avec ça, qui n'est pas anodin. Nous, en le faisant, on s'est dit « Bah oui, on leur met un truc sur les yeux, comme ça, ils vont être plus à l'écoute, mais en fait, il y a un rapport aussi à nous qui est différent.
Et c'est drôle aussi du fait que la caravane est plutôt mignonne. Enfin, il y a un côté, on se dit ça va être un sympa, gentil quoi. Et quand on commence à mettre les mains, du coup, les gens ils commencent à pétocher en même temps gentiment parce que ils savent bien qu'il va rien se passer. Ce qui est marrant, c'est que ça ramène plus les gens à eux en fait.
À leur peur,
à leur truc à eux, quoi.
À leurs angoisses,
Bon, après, je pense que ça se passe plutôt bien parce que ce qu'on fait, c'est très relaxant et tout.
Oui, c'est doux. Ça serait des textes plus trash.
Je pense que vous liriez ça, ce serait plus du tout la même ambiance. Hein.
Les gens, ils seraient tétanisés. Je veux sortir.
Ouais. Je pense qu'on a effectivement intérêt à faire un truc soft. Hein,
vous avez fait des choix hyper pertinents au niveau des textes parce que finalement...
C'est bien de vous voir avant de jouer, c'est très apaisant.
C'est des textes qui correspondent à des visions de l'amour différentes. En fait, chacun peut s'y retrouver. C'est pas classique, c'est pas stéréotypé. Donc il y a du Roland Barthes, il y a quelque chose. Il y a Bélard et Héloïse. Là, on est au Moyen Âge. Enfin voilà. Donc chacun peut trouver. Puis bon, le dernier texte, il est un peu plus osé. Donc
ça reste quand même assez soft.
Oui.
Ouais. Merci. c'est des textes qui m'ont touchée en fait. Et il fallait garder ce truc d'être grand public. Pour moi, c'était hyper important qu'on se... Parce qu'on a une proposition quand même. Quand on en parle aux gens, les gens, ils sont quand même sur la réserve. Donc je me suis dit, si on arrive avec des textes hyper contemporains, un peu élitistes et tout, on va en perdre sur la route. Et là, pour le moment, quand même... Hier, on a un couple, c'était super, qui faisait assez pop, quoi. Et on les a emmenés, il faut se bander les yeux. Et en fait, ils nous ont dit à la sortie que c'était l'anniversaire de la dame qui avait 50 ans et c'était son cadeau d'anniversaire.
Oh, c'est mignon.
Et c'était hyper touchant parce que du coup, ils sont partis, on s'est fait la bise et tout. Et moi, ça me plaît parce que je me dis, c'est une proposition qui n'est pas... y a un côté un peu intello, un peu France Q, un peu machin, et quand on arrive à toucher des publics comme ça, c'est...
Ouais, ça, c'était important que ça reste
accessible
à tout le monde. Ouais. Ouais. Surtout qu'en plus, il faut, parce que voilà, c'est un festival, les gens s'inscrivent, on ne sait pas qui c'est. Quoi. Ouais. Puis cette musique-là aussi, ce n'est pas de la musique...
Non, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose, il faut aussi, là aussi, ça amener...
Donc c'est vraiment, j'ai vu qu'il fallait trouver des stratégies simples, mais efficaces, quoi, de changer, voilà, casser le contexte du truc art contemporain, truc, et que les gens, en fait, ils pouvaient écouter tout, voir tout, enfin, on peut tout faire, il faut juste trouver le petit truc, quoi, qui fait que la personne se sente pas exclue dès le départ.
Enfin, hier, j'ai eu la chance de voir les sorties, en fait, de la séance d'avant, et c'est à chaque fois, bon, c'était très positif, on sent que vous faites du bien aux gens, en fait, à chaque fois, vous avez des retours comme ça, les gens, ils ont l'impression d'avoir vécu une expérience sensorielle, je pense.
Ben, c'est assez étonnant pour nous, parce que ce projet, donc, on l'a monté tous les deux, tout seuls, dans notre garage, enfin, dans la caravane, il y avait un truc très personnel. Là, on est prêt à Chalon, c'est complètement... c'est un petit peu là. On s'y attendait pas, hein, faut être quand même assez honnête. Et que là, les gens sortent en disant oh là là, merci, ça m'a permis de me retrouver, de me recentrer. Il faudrait que vous soyez remboursé par la sécurité sociale. Vas-y, waouh, les gens, c'est une société qui est dure, quoi. Ouais. Pour que les gens ils ressortent parce que ça dure un quart d'heure. Et je me dis c'est une société qui est violente, quoi. Parce que
moi, ce que j'ai vraiment le moment où j'aime, c'est quand ils enlèvent le masque. Parce que justement, ils enlèvent le masque. Les gens n'ont plus du tout la tête qu'ils avaient quand ils sont rentrés, alors que c'était un quart d'heure, même pas, des fois, 10 minutes, un quart d'heure après, quoi. Et ils ont vraiment des visages détendus. Ils ont plus la même tête.
Ouais, il y a un côté un peu thérapeutique, ou peut-être massage de l'âme,
massage
ou
des sonores.
Je pense que c'est surtout de lâcher quoi, d'arriver à lâcher la tension perpétuelle dans laquelle on vit, quoi, qu'on se rend même plus compte.
Mais c'est marrant En fait, tout le monde a les yeux bandés dans la caravane, moi pas, parce que faut que je lise. Et on voit les corps, en fait, qui se détendent, aussi, c'est hyper chouette. Et une fois, ça nous est arrivé que des gens s'endorment, mais nous, on est très contents, on dit super, c'est... Et ils sont hyper gênés, ils disent, excusez-moi, je me suis endormie. On dit, c'est bien, vous lâchez.
Ça veut dire que l'espace, il est serein, si vous pouvez lâcher autant, c'est quand vous nous faites confiance, quoi, finalement. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets comme ça, de caresses sonores, d'autres envies peut-être ?
On a un projet qui s'appelle le service des télégrammes sonores. En fait, on a un panneau de cassette à l'extérieur de la caravane. La caravane, elle n'est pas tout à fait pareille. Si on la transforme en studio d'enregistrement. Et donc, les gens, ils viennent et l'idée, c'est qu'ils enregistrent une caresse sonore pour quelqu'un d'autre. Donc, on leur donne une cassette, c'est des petites cassettes qu'on avait nous. Du coup, ils rentrent dans la caravane, on a le catalogue des caresses célèbres, la caresse punk, la caresse fondante, c'est un peu amusé, quoi. Ils ont des ambiances à choisir aussi, on a une vieille platine vinyle.
Il y a des disques, il y a plein de disques idiots, des ambiances, les chœurs de l'armée rouge, les mariachis, ambiances sonores, des trucs. Il y a aussi quelques petits jouets, et la cassette dure 5 minutes maximum.
D'accord. Et du coup, ils choisissent une cassette sur le grand panneau des cassettes. Et voilà, ils rentrent. Nous, on ferme la porte, ils font ce qu'ils ont envie. Ils enregistrent une caresse pour quelqu'un. Ils vont remettre la cassette sur le tableau avec le nom de la personne pour qui elle est destinée. Et nous, en échange, on leur donne un petit coupon caresse sonore qu'ils doivent donner à la personne pour qui la caresse est destinée. La personne vient l'écouter après.
Ouais, c'est un super concept.
Ouais. Et on fait un zoom en même temps. Comme toi. Et comme ça, s'ils peuvent envoyer par email aussi, si la personne n'est pas là.
Ouais. C'est des idées géniales, quoi.
Bah, c'est genre. Mais après, on n'est pas très fort en diffusion, en vente, quoi.
Bon, mais merci beaucoup.
Ben, merci.
De m'avoir accordé ce temps.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, car Caresse Sonore est une proposition artistique autour du sentiment amoureux, et elle se décline sous plusieurs formes et différents supports pour tous les publics. Je vous conseille aussi les liens pour la musique de Dan sur SoundCloud, Dan Digital ou Nuage Sonore. Alors Dan et Bérangère nous ont fait un magnifique cadeau. Ouvrez grand les oreilles et prenez votre pied, une lecture originale pour Cosette de Boudoir.
Vous voulez savoir mon opinion touchant au sentiment amoureux ? J'éprouve comme les autres hommes les joies et les douceurs de cette passion. Mais à vrai dire, je ne la connais pas. Il ne pourrait déterminer précisément quel est ce mouvement de l'âme. Ainsi, en l'amour, on sent je ne sais quelle chaleur autour du cœur et une grande influence de sang dans les poumons qui fait qu'on ouvre même les bras comme pour embrasser quelque chose.
J'espère que vous avez apprécié, car c'est vraiment un très très beau cadeau que nous ont fait Bérangère et Dan. Donc le texte était un texte de Descartes qui a été lu par Bérangère et le live a été fait en direct par Dan. Je les remercie donc fortement pour avoir pris le temps de me faire découvrir leur univers. Cette émission touche donc à sa fin et je vous propose un dernier petit morceau avant de se quitter. Chaleur humaine de Christine and the Queen. Découvrir tout au long de cette émission, Chalon dans la rue a bien rempli son contrat, hashtag être féministe. Tout au long de ce festival, nous avons pu voir des spectacles qui abordaient la question du féminisme, du genre, de la construction du féminin, du masculin, de la construction des sexualités. Les arts de rue, une fois de plus, nous ont offert de belles pistes pour réfléchir à ces questions-là. D'ailleurs, l'événement un peu extraordinaire qui a eu lieu durant ce festival était proposé par la compagnie des filles du Renard Pâle. Joanne Humblay a passé 24 heures sur son fil et c'est une première mondiale. Évidemment, durant ce festival, nous avons vu d'autres choses ou d'autres spectacles qui abordaient à la fois ces thématiques-là ou des thématiques plus politiques. Mais il a fallu faire des choix pour cette émission. Un très très grand merci à Emmanuel et Émile de la compagnie S'emballer à Marcel, à Delphine de la compagnie Agathe dans le vent, à Véronique, Claire et Marisa de la compagnie du Quartet Buccal, à Bérangère et Dan de la compagnie Trois Pièces Cuisine. Ils ont pris le temps, pendant ce festival, de répondre à mes questions, pas toujours évidentes et pas toujours très claires, et surtout d'avoir partagé leur passion pour les arts de rue. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de leur site ou de leur page Facebook en lien avec leur compagnie. Nous, on continue nos vacances et on vous souhaite un très très bel été. Et on se retrouve à Aurillac du 22 au 25 août pour la suite de nos aventures. Vous pouvez toujours écouter ou réécouter nos émissions sur l'audioblog Arte Radio Cosette de Boudoir et nous suivre sur notre Instagram ou notre page Facebook. Allez, à bientôt!
Pourquoi le plaisir féminin fait-il si peur? Why?